Est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment jouer aux échecs? Oui. Oui. Alors, ben, il y en a deux, mais qu'est-ce que vous diriez d'une partie où déjà vous n'avez pas les blancs, donc vous ne commencez pas, et alors que l'autre joue une pièce, vous avez perdu, il vous met mat. Et pourtant, la Bible en parle. Pourtant, la Bible dit que nous sommes échecs et mat. Je vais donc... Pourquoi je vous dis ça? Je vais parler aujourd'hui, je continue sur Éphésiens, et aujourd'hui, nous allons regarder Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 3. Alors, voilà. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bon, le programme est pas gai, hein? Paul parle là aux Éphésiens d'un temps d'avant leur conversion. Vous étiez morts. Ça veut dire qu'ils ne sont plus. Et il parle aussi, il dit « nous aussi ». Alors, bon, Paul ne parle pas de lui au pluriel, en général il dit « je ». Donc il parle en fait des Israélites, eux aussi étaient morts. Ça fait beaucoup de monde. Pour ces deux catégories de personnes, des ressemblances sont frappantes dans ce texte. Si on regarde, Paul dit « nous étions premièrement morts ». Deuxièmement, « esclaves ». Je vous expliquerai comment, parce que le mot « esclave » n'apparaît pas. « Et condamnés ». Alors, le premier point, « nous étions morts ». Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Ici, Paul s'adresse à d'anciens païens qui, à leur conversion, excusez-moi, n'avaient aucune idée de qui était Dieu, des alliances, des prophéties. Ils étaient complètement égarés, ces Éphésiens païens, sans repère dans leur culture ou leur religion, pour pointer vers le seul vrai Dieu. Et donc, Paul commence à leur décrire l'état spirituel dans lequel ils se trouvaient alors. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire « mort » dans ce verset ? Aujourd'hui, autour de nous, peut-être si vous êtes allé chez le boulanger ce matin, vous avez rencontré des personnes qui étaient mortes sans le savoir. Elles ont acheté des croissants, comme tous les dimanches, avec quelques pains au chocolat. S'il y a des gens du sud-ouest qui viennent, ce sont les chocolatines, je vous... Hein? Mais ces personnes étaient mortes. Pourtant, nous avions tous les symptômes de la vie qui étaient là. Ils agissent dans la société, ils ont une vie normale sur cette terre, et pourtant, ils sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans nos civilisations occidentales, qui rejette le spirituel tant qu'il n'est pas tourné vers mon bonheur, bah oui, quand même, le spirituel, c'est d'avoir mon bonheur. Être mort quand on a le souffle et l'être semble absurde. Mais voilà ce que John MacArthur dit à propos de ce verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que l'homme est né pécheur, il est né mort. L'homme ne meurt pas spirituellement parce qu'il pêche, il est spirituellement mort parce qu'il est pécheur par nature. C'est ce que nous dit ce verset. Ma belle-fille italienne, quand on va au restaurant, je vais vous donner une petite illustration. On va au restaurant, vous êtes assis en face d'elle, là, tranquille, vous vous dites tout va bien se passer. Et puis tout d'un coup, le garçon vient et lui dit pour les cuissons des viandes, alors l'un dit saignant, l'autre dit aplomb, le troisième dit bleu, et ma belle-fille dit morte. Elle veut sa viande tellement cuite qu'il ne perle pas une goutte d'un jus qui pourrait être légèrement rosé. Je n'ai pas besoin de vous dire que le steak tartare, c'est pas fait pour elle. Et bien ce que nous dit Paul là ressemble tout à fait à ça. L'homme est mort spirituellement. Quand il vit sur cette terre, il est mort spirituellement. Ensuite, il meurt physiquement. Son âme et son corps se séparent. Mais à la fin des temps, il ressuscite. Souvent, on oublie que les morts spirituels, à la fin des temps, ressuscitent. Je vais vous lire le passage, vous allez voir. Et il ressuscite pour la mort éternelle. C'est-à-dire qu'ils vont vivre loin de Dieu, avec tous leurs défauts, mais avec les défauts des autres, bon, je le dis quand même, je ne devrais pas le dire, et cerise sur le gâteau, ils sont en présence des démons. Alors, vous pensez peut-être que c'est vraiment dur ce que je vous dis, je vous lis le passage. Puis je vis un grand trône blanc, je suis dans Apocalypse 20, et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Certaines fois, on oublie qu'il y a cette résurrection qui s'adresse aussi pour vous. Ils continueront à être morts spirituellement, mais ils vivront une mort spirituelle. Ce que certains athées veulent nous dire, que ben, pour cela, tant pis pour eux, c'est le néant. Pas du tout. Ça ne sera pas mieux. Je vais continuer, Paul. Et je me suis posé une deuxième question sur ce verset. Depuis quand étions-nous morts par nos fautes et nos péchés? Alors David nous donne une réponse. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors dans cette traduction, on peut penser, ma mère m'a conçu dans le péché. Il y en a certains qui ont monté des idées très compliquées alors que c'est tout simple. Regardez cette autre version. Je suis depuis ma naissance marqué du péché Depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Que nous dit David ici, c'est que le péché est complètement attaché à nous depuis le moment de notre conception. Déjà au passage, on voit que à la conception, déjà l'œuf est un humain, puisque le péché lui est attaché. Mais on voit ici donc, alors que David vient d'être repris pour un meurtre, un adultère, il se repent devant Dieu, et à quoi il pense ? Je suis David, je vous rappelle, à l'époque, c'est quelqu'un qui est sauvé. Et il dit, j'ai été conçu dans le péché. Le péché est attaché à moi depuis ma conception. Un des faits les plus marquants, et qu'ont relevé les psychologues, c'est ce qu'on appelle le bébé maître du monde. On n'imagine pas le bébé vient de naître. Il est tellement... Richard nous le disait la semaine dernière. Aujourd'hui, tous les bébés quand ils naissent, ils sont mignons, ils sont beaux. Oui, mais le problème, c'est que le bébé, dans les premiers jours de sa vie, il peut avoir cette réaction, et les psychologues l'ont remarqué. Finalement, c'est agréable d'être dans les bras de maman ou de papa. Donc, j'ai plus besoin de rien. Il est 2h du matin, il faut dormir, et je me mets à brailler pour qu'on me prenne dans les bras. C'est ce qu'on appelle le bébé maître du monde. Et il y a des bébés, si on n'y prend pas garde, il nous réveille toutes les heures, ou toutes les 3 heures, ou toutes les... sans avoir de besoin. Si ce n'est, ce serait bien que je prenne un peu soin de moi, quoi, que je sois dans le confort plutôt que dans mon lit seul, c'est terrible. Avec le peu de raisonnement qu'il a, le bébé est déjà tenu par le péché, depuis la conception. Et d'où nous est transmise, d'où nous vient cette mort spirituelle? D'où tenons-nous cela? Nous avons une réponse dans Genèse, et c'est au chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit, et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Alors ça, c'est... voilà. Créé à l'image de Dieu, dans un état parfait, ils sont là. Et ils n'ont pas désobéi à Dieu. Ils vivent heureux, bien, tout se passe bien. Et puis nous lisons en suivant, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Quand Adam est créé, donc, ressemblance de Dieu. En Genèse 3, la ressemblance de Dieu a été abîmée, cassée. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a eu quelque chose qui, dans notre ressemblance de Dieu, a été brisé, puisque nous sommes devenus mortels. La possibilité de vie éternelle a été retirée à l'homme, selon le commandement qu'il avait reçu dans Genèse. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3,15, pourtant, a laissé un espoir à l'homme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Au commencement, Dieu déjà savait, nous l'avons vu dans le chapitre 1 d'Éphésiens,
Il savait ce qu'il allait faire malgré le péché de l'homme. Seth est conçu, donc, comme on le voit dans ce verset, à la ressemblance d'Adam. Et Adam, il a acquis un problème entre le moment de sa création et le moment où il engendre Seth. Et Seth est créé, excusez-moi, est conçu selon l'image d'Adam. Donc, il est porteur de cette séparation que Adam a acquis entre lui et Dieu. Seth est lui aussi mort spirituellement, et tous ses descendants, c'est-à-dire nous tous, nous allons hériter de cette même chose. Nous pouvons donc conclure avec Calvin, la souillure des parents est transmise aux enfants de génération en génération de telle sorte que tous en sont atteints dès leur conception. Nous sommes donc nés morts spirituellement et ne pouvant rien faire pour y remédier par nos propres forces. Le deuxième point, c'est que nous sommes esclaves. Pour vous, vous étiez morts par vos péchés et par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La première chose qui est importante, enfin qui me semble importante là, c'est selon. Vous marchiez selon. Pourquoi ? Ce mot indique que nous naviguions avec une boussole qui nous contraignait. Ok ? Voilà, j'ai une boussole qui est nouvelle, mais et qui nous rendait esclaves. Nous ne pouvions pas aller ailleurs que là où la boussole nous mène. Dans notre culture, les deux aiguilles de la boussole, elles nous menaient vers le mauvais chemin. Les deux aiguilles, c'est le cours de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Voici en quel terme Calvin parle de l'asservissement de l'homme. Je pense que nous avons suffisamment montré comment l'être humain est asservi au péché, au point qu'il ne peut pas, par sa propre nature, ni désirer le bien avec sa volonté, ni le faire. Nous avons aussi fait la distinction entre contrainte et nécessité, qui conduit à dire que lorsque l'homme pêche nécessairement, il pêche volontairement. Alors vous allez me dire, un peu compliqué. La nécessité, c'est la contrainte qui vient de notre nature. Et c'est pas une nécessité. Si je suis colérique, je vais me mettre en colère, demander à ma femme, ça m'arrive. Donc, oui, mais bon, c'est pas une contrainte qui m'est apportée de l'extérieur, c'est bien quelque chose qui m'arrive à moi. Eh bien, nous sommes tous ainsi. Nous avons une contrainte qui nous pousse au péché. Une petite question, alors, qui a des enfants jeunes? Ah, je vois Thomas, il y a Marie, je ne vois pas d'autres pour le moment. Est-ce que vous avez eu besoin d'apprendre à vos enfants à faire le mal? Ouais, non. En général, on a besoin d'apprendre à nos enfants à faire le bien. C'est une chose toute simple. Eux, ils ont une boussole. Et la boussole qu'ils ont en interne, c'est « je fais mal ». Deuxième point, selon le cours de ce monde, on a vu là que nous étions dans un entonnoir qui... Alors, qu'est-ce que le monde ? Dominique Anger donne une description. Le monde est le grand système qui s'oppose à Dieu, comprenant les personnes qui contestent l'autorité divine, souvent à leur insu. C'est la société organisée sans Dieu, l'ensemble des valeurs communiquées par les raisonnements humains, parfois par les médias, parfois par la culture populaire. comment le monde se manifeste-t-il? Excusez-moi. Les trois éléments les plus caractéristiques du système du monde sont l'humanisme, le matérialisme et les relations sexuelles illicites. L'humanisme place l'homme par-dessus tout. C'est l'homme qui est en mesure, est la mesure de toute chose. Chacun est son propre maître, sa propre norme de ce qui est bien, sa propre source d'autorité. En un mot, son propre Dieu. Le matérialisme met les choses matérielles par-dessus tout, surtout l'argent, parce que l'argent permet d'acquérir tout le reste. La perversion sexuelle domine notre société occidentale actuelle comme aucune autre société depuis les périodes de décadence de la Grèce et de la Rome antique. J'ai lu là une citation de John MacArthur dans son commentaire de ce verset. Et quand John MacArthur écrivait en 1986-1999, parlait de l'Occident, on peut être tranquille aujourd'hui que ça s'est étendu à bien d'autres endroits. Quelques exemples dans le monde antique. Vous ne pouviez pas, par exemple, être artisan si vous ne participiez pas aux sacrifices et aux orgies qui étaient liées à la divinité tutélaire de cet artisanat. Par exemple, je pense que pour les forgerons, c'était Zeus. Donc, on faisait tous les ans ou plusieurs fois par an sacrifice. Ah oui, mais si tu devenais chrétien, dans le domaine, je dirais, de la vie courante, on a un exemple très intéressant. C'est Octave, celui qui deviendra le premier empereur. Ben, un jour, il voit une femme qui lui plaît, qu'importe qu'elle soit mariée ou non, il ordonne au mari de divorcer, et il la prend pour femme, et il adopte le fils. Tibère, qui deviendra empereur au temps de Jésus, mais c'est complètement, je suis le plus fort, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, bien nous voyons se manifester ainsi le mal, ce qui agit selon le monde en nous, le culte du moi. Par exemple, je vous cite autre, la constitutionnalisation de l'avortement. La théorie du genre, on est complètement dans le culte du moi. Excusez-moi, à partir de ce matin, je suis un pied de banc. Ça paraît aberrant, mais on a vu ça à la télévision, donc tout centré sur moi. Et, je vous donne la meilleure, dont on parle tous ensemble, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Hein, qui est vraiment, soyons tranquilles, c'est purement humain, avec tout ce que l'humain, c'est centré sur le moi. Alors, on trouve ça terrible, mais je dirais que notre culture est corrompue, comme l'était la culture gréco-romaine, et comme je l'ai entendu j'ai écouté plusieurs ou lu plusieurs pasteurs à propos de cette fameuse cérémonie. C'est normal. C'est normal parce que... Ah, eh oui, Liliane, c'est écrit. Il faut que le mystère de l'iniquité... Eh oui, à un moment donné, le péché va en grandissant dans notre monde jusqu'au moment où Dieu arrêtera tout pour juger. Alors, effectivement, ça... Quand je dis c'est normal, ça fait drôle, mais c'est, je devrais dire plus exactement, ça n'a rien d'étonnant. On a l'impression que le temps de la culture judéo-chrétienne est passé et qu'on est rentré dans un temps où le péché domine vraiment. Mais qui est à l'origine de tous ces désordres? Et là, nous passons à selon la puissance, le prince de la puissance de l'air. Wayne Grudem dit « La particularité du diable, c'est d'être à l'origine du péché et d'avoir incité les autres à pécher. » Le plan de Dieu, il est d'une très grande clarté. Il veut bénir l'homme et lui offrir la vie de bonheur éternel auprès de lui. Et c'est ce que nous voyons ici. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dieu a créé un lieu, cette terre, pour que l'homme accède à la vie éternelle. Projet initial. Il crée l'homme pourtant capable de pécher et de ne pas pécher. Il le crée avec une certaine liberté. Il lui dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et alors, comment sommes-nous devenus fils de la rébellion? Vous connaissez ce passage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» etc. En fait, le serpent a une stratégie ici. Premièrement, il sème le doute d'une manière caricaturale. « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Non, Dieu leur avait dit, « Vous pouvez manger de tous sauf un. » Deuxièmement, il s'adresse au maillon faible. Je ne dis pas ça parce que c'est la femme. Mesdames, ne commencez pas à me jeter des pierres. Je dis ça parce que la femme n'avait pas reçu l'ordre. C'est l'homme qui avait reçu l'ordre. Tu ne mangeras pas. La femme fait que retransmettre cet ordre. Et en plus, elle retransmet à peu près. Tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Non, non, c'était tu n'en mangeras pas. C'était tout. Le serpent amène un mensonge. Vous ne mourrez pas du tout. Vous serez comme des dieux. Et il amène une vérité. Vos yeux s'ouvriront. Oui, leurs yeux se sont ouverts, c'est ce que la Bible nous dit. Et vous connaissez la suite. La femme est séduite, elle prend le fruit. Elle en donne à son mari. Son mari, qui lui aurait dû, en tant que réceptionnaire de l'ordre divin, répondre au serpent, sais-tu, a convoité et a rejeté finalement le commandement humain, le commandement divin. Effectivement, leurs yeux se sont ouverts pour voir et concevoir le mal. Pas gros avantage à avoir des yeux ouverts pour cela. Et la première chose dont il nous est dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Au début, il est dit, le serpent était rusé, le plus rusé de tous les animaux. Et le mot nu et le mot rusé sont presque les mêmes en hébreu. Tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient nus. Ils s'étaient approchés de cette ruse du diable. Donc voici l'origine des fils de la rébellion. Oui, le diable les a amenés à pécher, comme je vous ai fait lire au début, mais il les a fait basculer dans autre chose. L'homme et à sa suite la création ont basculé dans la déchéance. Alors, on voit, je vous ai parlé de tout ça peut-être un peu plus en détail, parce que souvent Satan emploie les mêmes armes. Voici ce qu'en dit Calvin. L'enseignement de l'Écriture au sujet des diables, on sent son XVIe siècle, consiste à nous mettre sur nos gardes contre leurs tentations et à ne pas être surpris par les obstacles qu'il place sur notre chemin, mais à nous munir d'armes suffisantes pour replacer ses ennemis forts et puissants. Le troisième point, c'est que nous sommes condamnés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et je vous mets une autre version. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Soit nous étions des enfants de colère, soit nous étions destinés à la colère. C'est le passage où Paul s'adresse particulièrement aux judéo-chrétiens. Premièrement, première idée qu'il veut introduire, les juifs qui se sont convertis à Éphèse étaient comme les autres. C'est vraiment un constat d'échec. Dieu s'est choisi un peuple pour le servir. Il lui a donné l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les patriarches. Et les Hébreux n'ont pas gardé, ne sont pas restés dans le bon chemin. Ils se sont eux aussi rebellés, ils ont appliqué la loi avec convoitise, alors que le dixième commandement dit « tu ne convoiteras pas ». À l'image de Paul avant sa conversion, les Juifs étaient des gens qui étaient charnels, au point de ne pas se rendre compte que leur Messie était au milieu d'eux. Celui qu'ils attendaient, de concert avec les nations païennes, ils l'ont crucifié. Nous lisons ça dans Actes 4. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Car, en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, écoutez bien, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, tous coupables, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Arrivé à ce constat que les Juifs et les païens sont pécheurs par nature et sans moyen de s'en sortir, Paul arrive à une conclusion terrible. Nous sommes sous la colère de Dieu. Et nous sommes, par là même, c'est comme ça que je vois, en colère contre Dieu, ou tout au moins, je parle toujours, c'était des inconvertis. Ceci m'amène à conclure. Alors pourquoi Paul, après avoir écrit aux Éphésiens comment le Père nous a élus, avant la fondation du monde, comment le Fils a accompli le salut dans l'histoire, comment le Saint-Esprit l'applique dans chacune de nos vies. Pourquoi Paul trouve-t-il utile de nous parler dans ces trois versets de notre condition avant ? Et pourquoi en plus ce passage nous a été transmis ? Alors j'ai trouvé quelques conclusions. La première, on oublie très vite que sans Dieu, on est échec et mat. On peut très vite oublier qu'on est pécheur. On peut très vite dire « maintenant je suis sauvé et je suis toujours pécheur ». Je suis sauvé, comme dit Paul en Romains, en espérance. J'attends ce moment où tout à coup, en présence de mon Seigneur, je serai libéré du péché. Mais j'ai envie de dire, qui parmi nous n'a pas péché cette semaine? Pour ma part, oui. Donc, et c'est une chose intéressante parce que c'est ce que Jackie nous a rappelé dans sa prière tout à l'heure pendant la Sainte-Seine. Il a demandé pardon. Pardon cette semaine. Je t'ai oublié. T'es pas le seul, Jackie. Parce que nous devons toujours nous rappeler que la colère de Dieu signifie qu'il hait profondément le péché. Si nous n'avons pas ça dans notre cœur, nous manquerons d'avoir un cœur ouvert pour aller évangéliser, d'avoir un cœur ouvert pour attraper, pour prier pour les personnes qui ont besoin du Seigneur. Ça nous permet de nous comparer à Jésus. Et quand on se compare à Jésus, en général, on est humilié. Et quand on est humilié, c'est très bon pour nous. Notre orgueil diminue. Enfin, nous qui croyons sommes devenus, par la puissance du Saint-Esprit, des images d'espérance. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent s'avancer pendant que je lis un court passage ici. Un passage, après tout, ces mauvaises nouvelles que je vous ai annoncées, qui est un passage qui va vous mettre un peu de baume au cœur. L'histoire est l'histoire de la rédemption. L'histoire va bien au-delà de ma personne. Je ne suis pas le personnage principal dans cette pièce intitulée « Rédemption ». Mais par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Mon rôle secondaire s'intègre à un tout. Il vaut mieux, il vaut tellement mieux avoir un petit rôle dans cette histoire-là que d'être la star de ma propre mise en scène, qui est pitoyable. L'histoire de la rédemption est universelle et continue jusqu'à l'éternité. Suis-je d'accord de jouer le rôle qui m'est imparti avec grâce et joie? Ou est-ce que je préfère jouer dans un court-métrage un scénario sans intérêt et vide de sens? C'est une citation du livre de Suzanne Hunt, « Ces mensonges qu'on nous fait croire et les vérités qui nous libèrent ». Si tu n'es pas encore entré dans cette histoire, si la culpabilité et la rébellion sont un fardeau pour toi, tu peux encore y entrer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens à lui.